Retournement du clivage éducatif, redéfinition des clivages professionnels. Si l'on examine maintenant les différentes professions et les secteurs d'activité concernés, on constate que le retournement du clivage éducatif a été particulièrement frappant pour certaines catégories. Parmi les catégories faiblement diplômées qui votaient fortement pour les partis de la gauche électorale dans les années 1950-1960 et qui, pour une large part, ont cessé de voter pour ces partis dans les années 1990-2020, on trouve notamment les ouvriers du secteur industriel. Cet effondrement du vote ouvrier pour les partis socialistes, communistes, sociaux-démocrates, démocrates et travaillistes pendant les décennies de l'après-guerre est un phénomène bien connu que l'on retrouve dans tous les pays occidentaux. L'explication la plus évidente est la perception croissante au sein des ouvriers que les partis qui étaient supposés les défendre sont de moins en moins parvenus à le faire, en particulier dans un contexte de chute de l'emploi industriel et d'une mondialisation sans régulation collective suffisante. À l'inverse, parmi les catégories fortement diplômées en pleine expansion et qui ont maintenu leur vote à gauche, ou parfois accru leur vote à gauche, il faut notamment citer les enseignants, les professions intermédiaires et les cadres du secteur public, ainsi que les métiers de la santé et de la culture. Autrement dit, le renversement du clivage éducatif ne s'est pas produit dans le vide ou dans un monde stationnaire. Il s'est produit dans le contexte de sociétés rapidement évolutives, marquées par un accroissement inédit des niveaux de formation et de l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur, et par une expansion elle aussi inédite des emplois de service. Il serait cependant erroné de réduire le retournement du clivage éducatif à quelques professions particulières, les ouvriers, les enseignants, etc. On retrouve également l'inversion de l'effet du diplôme à l'intérieur des professions et des secteurs d'activité. Par exemple, au sein des salariés du secteur privé, ou bien à l'intérieur des salariés non industriels du secteur privé, ou à l'intérieur des salariés du secteur public, on constate que les moins diplômés votaient plus fortement pour les partis de gauche que les plus diplômés pendant les années 1950-1970, et que le contraire est vrai dans les années 1990-2020. En particulier, ce ne sont pas seulement les ouvriers de l'industrie qui ont cessé de voter pour les partis de gauche. On retrouve une désaffection tout aussi marquée parmi les salariés peu diplômés des services. Les limitations des données disponibles ne permettent malheureusement pas de décomposer les effets croisés des professions et des diplômes aussi finement qu'il serait souhaitable. Mais elles sont suffisantes pour constater que le retournement du clivage éducatif est un phénomène d'ordre général qui ne se limite pas à un secteur particulier, ni d'ailleurs à un parti politique particulier. Au sein de la gauche française, le vote communiste a toujours été plus populaire et moins diplômé que le vote socialiste. Mais les deux électorats se sont déplacés en direction des plus diplômés avec une ampleur comparable, tout du moins en première approximation, et compte tenu là encore des tailles limitées d'échantillons qui limitent ce qu'il est possible de dire. Et l'évolution d'ensemble a été accélérée par l'abaissement de la part du vote communiste dans le total. En tout état de cause, le fait central est que l'on observe ce même retournement du clivage éducatif dans les pays où la gauche électorale n'a jamais été structurée de cette façon, en particulier dans les pays anglo-saxons. Il s'agit donc d'une évolution dont les racines politiques et intellectuelles sont plus générales. La gauche électorale et les classes populaires, anatomie d'un divorce. Comment expliquer que la gauche électorale, qui dans les années 1950 et 1960 était le parti des travailleurs et des salariés socialement les plus défavorisés, soit devenue dans les années 1990 et 2000 le parti des diplômés? Nous ne pourrons répondre pleinement à cette question qu'après avoir examiné les trajectoires observées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les autres pays, et après avoir analysé les multiples processus qui ont pu contribuer à cette évolution complexe. Pour simplifier, on peut dire qu'il existe deux grandes catégories d'explications, une hypothèse sociale et une hypothèse nativiste, qui ne sont pas mutuellement exclusives. L'hypothèse sociale, qui me semble de loin la plus importante et la plus convaincante, est que les catégories populaires se sont graduellement senties abandonnées par les partis de gauche, qui se seraient progressivement tournés vers d'autres catégories sociales, et notamment vers les plus diplômés. L'hypothèse nativiste est que ce sont au contraire les partis de gauche qui auraient été abandonnés par une partie des catégories populaires, happés par les sirènes du vote raciste et anti-immigré. Cette seconde hypothèse est particulièrement répandue aux États-Unis, où l'on insiste souvent, non sans raison, sur le fait que les classes populaires blanches du sud du pays ont commencé leur lente transition vers le Parti républicain dès après que les démocrates ont épousé la cause de l'égalité raciale et de la déségrégation dans les années 1960. Plus généralement, de multiples travaux ont insisté sur la montée en puissance depuis les années 1980 et 1990, en Europe comme aux États-Unis, de nouveaux clivages autour des enjeux migratoires et de la question du multiculturalisme, qui aurait contribué à éloigner les catégories populaires de la gauche électorale. Cette hypothèse mérite d'être prise au sérieux et elle sera examinée de près. En particulier, il est peu contestable que les thèmes nativistes, racistes et anti-immigrés ont été surexploités au cours des dernières décennies au sein des partis de droite traditionnels, à commencer par le Parti républicain aux États-Unis et le Parti conservateur au Royaume-Uni, aussi bien que dans de nouveaux mouvements d'extrême droite centrés sur ces questions, dont l'archétype est le Front national en France. Cette hypothèse nativiste pose cependant de multiples problèmes, et ne me semble pas en mesure de rendre compte correctement des évolutions observées. En particulier, le fait central est que le retournement du clivage éducatif est un phénomène de long terme qui a débuté dès les années 1960 et 1970, aussi bien aux États-Unis qu'en France et au Royaume-Uni, c'est-à-dire bien avant que le clivage migratoire ne devienne véritablement prégnant en Europe. Par ailleurs, il est très commode de tout expliquer en stigmatisant le supposé racisme des classes populaires, qui en réalité n'a rien de plus spontané que celui des élites. Si les catégories populaires étaient pleinement convaincues par les mouvements anti-immigrés, alors leur participation électorale devrait être à son zénith. Que cette participation se situe actuellement à des niveaux très bas montre clairement que ces électeurs ne se sont pas satisfaits des choix proposés. Enfin, nous verrons en examinant l'ensemble des pays pour lesquels nous disposons de données comparables que le retournement du clivage éducatif s'est également produit dans des contextes où le clivage migratoire ne jouait quasiment aucun rôle. Tout cela plaide pour l'hypothèse sociale et le sentiment d'abandon des catégories populaires par les partis du centre-gauche, mécanisme sur lequel s'est par ailleurs greffé le discours nativiste visant à récupérer une partie des électeurs abandonnés. La gauche brahmane et la question de la justice sociale et éducative. Essayons de mieux comprendre l'hypothèse sociale et sa signification dans le contexte français. Reprenons tout d'abord l'évolution observée des élections législatives de 1956 à l'élection présidentielle de 2012. En 1956, 72% des électeurs n'avaient aucun diplôme ou avaient pour seul diplôme le certificat d'études primaires. En 2012, seuls 18% des électeurs étaient dans cette situation. Autrement dit, la grande majorité des enfants et des petits-enfants des électeurs sans diplôme de 1956 ont pu accéder à des niveaux de formation plus élevés, pour certains à des diplômes du secondaire et pour d'autres à des diplômes du supérieur. Or, le fait frappant est que parmi ces enfants et ces petits-enfants, ce sont ceux qui ont pu se hisser jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, et tout particulièrement ceux qui ont atteint les diplômes les plus avancés du supérieur, qui ont continué de voter pour les partis de gauche avec la même ampleur que les électeurs sans diplôme de 1956. Ceux qui se sont contentés d'atteindre les diplômes du secondaire, et notamment ceux qui n'ont obtenu qu'un diplôme court du secondaire et qui n'ont pas été jusqu'au baccalauréat, sont nettement moins enthousiastes à l'idée de voter pour ces mêmes partis. Quant à ceux qui sont restés au niveau primaire ou sans diplôme, ils les ont massivement désertés. Une explication naturelle pour cette désaffection vis-à-vis de la gauche électorale est la perception que cette dernière a totalement changé de nature et de plateforme programmatique. Pour résumer, l'hypothèse sociale est que les catégories les plus populaires, au sens du niveau de diplôme, ont pu avoir l'impression que la gauche électorale s'intéressait désormais davantage aux nouvelles classes favorisées et diplômées et à leurs enfants, bien davantage qu'à ceux des milieux modestes. de multiples éléments plaident en faveur de cette interprétation et suggèrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une impression. J'insiste sur le fait que cette grande transformation politico-idéologique et programmatique s'est réalisée de façon graduelle, continue et largement imprévue au fur et à mesure de l'expansion éducative. Autrement dit, la gauche électorale est passée de parti des travailleurs en parti des diplômés, ce que je propose d'appeler la gauche brahmane, sans l'avoir vraiment voulu et sans que personne ait véritablement été en position de le décider. En particulier, on peut comprendre que ceux qui ont réussi leur ascension éducative, en particulier dans le cadre du système public, en soient d'une certaine façon reconnaissants aux partis de gauche, qui ont toujours mis l'accent sur l'émancipation et la promotion sociale par l'éducation. Le problème est que ces personnes ont également pu se retrouver, dans certains cas, à nourrir diverses formes d'autosatisfaction et de condescendance vis-à-vis du reste de la population, ou tout du moins à ne pas prêter une grande attention au fait de savoir si les proclamations méritocratiques officielles se traduisaient ou non dans la réalité. C'est ainsi que l'ancien parti des travailleurs est devenu celui des gagnants du système éducatif, se séparant progressivement des catégories populaires, à l'image de la coupure entre les techniciens et les populistes imaginée par Jung dans son récit prémonitoire de 1958. Concrètement, les conflits entre les catégories populaires qui ont progressivement déserté la gauche électorale et les nouvelles classes diplômées de la gauche brahmane se sont incarnés au cours des dernières décennies et continuent de se manifester aujourd'hui dans de multiples enjeux de politique publique. Cela peut concerner différentes questions concernant l'organisation des services publics, l'aménagement du territoire, les équipements culturels ou les infrastructures de transport. Cela peut également s'incarner dans le conflit entre d'une part les grandes agglomérations, à commencer par l'agglomération parisienne, où sont montées vivre et travailler une large part des plus diplômés, et les villes de taille moyenne et les territoires ruraux, moins intégrés dans la mondialisation. Le fait même que la ville capitale a basculé nettement à gauche sur le plan électoral depuis les années 1990-2000, en particulier avec l'élection d'une majorité socialiste à la mairie en 2001, constamment réélue depuis lors, alors que Paris votait fortement à droite jusqu'aux années 1970-1980, constitue en soi un symbole important et aisément repérable. La question du financement du train à grande vitesse, TGV, tellement coûteux qu'il n'est réellement accessible qu'aux classes les plus favorisées des grandes villes et de la fermeture concomitante des petites lignes locales entre villes secondaires, fournit par exemple une illustration claire de ce type de clivage. Le sujet de l'impôt et de la répartition de la charge fiscale est également extrêmement sensible dans un contexte où la gauche au pouvoir a joué un rôle pour mettre en place la libéralisation des flux de capitaux dans les années 1980 et 1990 sans échange d'informations ni coordination sociale et fiscale, ce qui a fortement contribué à accélérer le processus de concurrence au profit des plus aisés et des plus mobiles et d'alourdissement d'impôts pour les classes perçues comme immobiles, notamment sous forme de taxes indirectes et de prélèvements accrus sur les salaires bas et moyens. Enfin, les conflits entre catégories populaires et gauche brahmane s'incarnent également dans l'organisation du système éducatif lui-même. Il convient de rappeler ici à quel point le système scolaire et universitaire français est resté extrêmement stratifié et inégalitaire. Les cursus primaires et secondaires ont été graduellement unifiés, au sens où tous les enfants ont en principe eu accès depuis le début des années 1970 au même cursus jusqu'à l'âge de 15 ans, avec des programmes et financements identiques pour toutes les écoles primaires et les collèges d'enseignement secondaire, tout du moins en théorie. Les lycées sont en revanche restés séparés en trois types d'établissements, lycées généraux, technologiques et professionnels, qui, en pratique, reproduisent fortement les clivages sociaux. Surtout, le système français d'enseignement supérieur est extrêmement hiérarchisé. Il comprend d'une part les grandes écoles scientifiques, commerciales et administratives, ainsi que les classes préparatoires conduisant aux examens permettant d'accéder à ces écoles. Ce sont des filières fortement sélectives et élitistes, menant aux principaux postes de direction des secteurs publics et privés, ainsi qu'aux emplois de cadres supérieurs, d'ingénieurs et d'administrateurs. Le système comprend d'autre part les universités, qui, historiquement, n'ont pas le droit de pratiquer la sélection. Tous les bacheliers sont en principe admis automatiquement, ainsi que des instituts technologiques offrant des formations en 2 ou 3 ans. En pratique, les enfants issus des classes favorisées sont surreprésentés dans les classes préparatoires et les grandes écoles, qui bénéficient d'un financement public par étudiant entre 2 et 3 fois plus élevé, selon le cas, que le financement correspondant pour les filières universitaires où se concentrent les enfants issus des classes moins favorisées. Pour justifier ce système, une expression qui se veut positive a été forgée, l'élitisme républicain. Autrement dit, il s'agit d'un système dont l'élitisme est reconnu, mais qui se justifie par le fait qu'il est républicain, ce qui, dans le contexte français, signifie qu'il s'agit d'un élitisme justifié, au service de l'intérêt général, fondé sur le mérite et l'égalité des chances, sans rapport avec les privilèges héréditaires qui caractérisaient les élites de l'Ancien Régime. Comme tous les systèmes idéologiques, celui-ci a sa part de plausibilité. Toutes les sociétés ont besoin de sélectionner les personnes qui occuperont les différents postes de responsabilité et le faire au moyen de concours anonymes et de ressources publiques importantes peut apparaître comme plus juste que des modes de sélection fondés sur des droits d'inscription élevés et des dons parentaux. Il reste que le régime éducatif français apparaît comme particulièrement inégalitaire et hypocrite. La foi infinie accordée au concours comme source d'une inégalité juste peut conduire à surdéterminer les trajectoires individuelles sur la base de résultats scolaires obtenus à l'âge de 18 ou 20 ans. Surtout, il paraît difficile de justifier que l'on se retrouve à investir au bénéfice des étudiants socialement les plus favorisés des ressources publiques structurellement plus élevées que pour les étudiants moins favorisés, opération qui revient in fine à exacerber les inégalités familiales initiales au moyen de la puissance publique. Or, la gauche électorale, en devenant le parti des diplômés, est de facto devenue la garante et la meilleure avocate de cet élitisme républicain, plus encore que les partis bourgeois auxquels elle s'opposait à l'époque où elle était le parti des travailleurs. Sous la conduite du Parti socialiste, la gauche électorale a occupé le pouvoir à de multiples reprises depuis le début des années 1980, un peu plus de la moitié du temps. Elle disposait à chaque fois des majorités parlementaires qui lui auraient permis de transformer le système français d'enseignement supérieur. En particulier, ses gouvernements et ses majorités auraient pu choisir de modifier la structure de son financement et d'investir dans les filières universitaires des moyens équivalents à ceux consacrés aux élèves des grandes écoles et des classes préparatoires. S'ils ne l'ont pas fait, c'est sans doute parce qu'ils ont considéré que la structure élitiste du financement de l'enseignement supérieur se justifiait, ou bien que les ressources fiscales méritaient d'être affectées à d'autres priorités, y compris dans certains cas sous la forme de baisses d'impôts bénéficiant aux plus favorisés. Au total, si l'on considère la répartition de l'ensemble de la dépense éducative, primaire, secondaire, tertiaire, en France, on constate que le système en place actuellement investit près de 3 fois plus d'argent public par enfant pour les 10% de chaque génération bénéficiant de la dépense éducative la plus importante que pour les 50% bénéficiant de l'investissement le moins important. Ces fortes inégalités face à l'éducation, qui coïncident pour une large part avec les inégalités d'origine sociale, sont dues à la fois aux différences d'accès au secondaire et au supérieur, et aux inégalités de dépenses à l'intérieur du supérieur. Encore faut-il préciser que ces estimations, faute de données adéquates, sous-évaluent l'ampleur de ces inégalités. En particulier, elles reposent sur l'hypothèse que tous les enfants bénéficient d'une même dépense moyenne par année passée dans le primaire ou le secondaire. Or, tous les éléments disponibles suggèrent que les groupes sociaux les plus défavorisés bénéficient dans certains cas de dépenses inférieures. En particulier, de nombreux travaux ont montré que les écoles, collèges et lycées socialement les plus défavorisés bénéficiaient d'enseignants moins expérimentés, et en particulier d'un plus grand nombre d'enseignants vacataires et d'absences non remplacées, en dépit du fait que les effets négatifs sur la réussite des élèves sont bien établis et significativement plus élevés pour les élèves plus défavorisés. Par exemple, si l'on examine les collèges publics de région parisienne, on constate que le pourcentage d'enseignants contractuels non titulaires ou débutants est d'à peine 10% à Paris et dans les départements les plus favorisés comme les Hauts-de-Seine et qu'il atteint 50% dans les départements les plus défavorisés comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. On retrouve dans la plupart des pays de l'OCDE, ce qui n'est guère rassurant, cette constante selon laquelle les élèves issus de milieux favorisés ont plus de chances d'avoir en face d'eux des enseignants titulaires et expérimentés que ceux issus de milieux défavorisés, qui ont plus souvent des enseignants remplaçants ou contractuels. Des travaux ont toutefois montré que les écarts observés étaient particulièrement élevés en France.